Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vif, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sico parler, bienvenue sur le podcast.
En direct de ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler, le meilleur podcast de l'histoire, je dirais, du Canada français, peut-être même d'Amérique du Nord. Grosse semaine, et là j'ai des affaires pour vous autres. Mais premièrement, restons avec ma soirée, ok, d'hier. Là, j'ai expérimenté quelque chose qu'il ne faut pas faire, les amis. J'ai eu une semaine, je dirais, riche en émotions. Il y a beaucoup de ces moments-là qui sont sous le couvert de la confidentialité. Mais, c'est bizarre comment je l'ai dit. Disons que je suis allé dans une rencontre. Vous le savez, là, j'ai arrêté le jeu compulsif depuis le 1er juin dernier. Et je me sens fort. Je me sens dans une phase où il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Puis là, j'ai une intervenante, là, parce que j'ai décidé de le faire avec ce qu'on appelle une thérapie externe. Puis l'intervenante a dit « Ah, il faut pas baisser les bras, tu sais, là, tu vas bien, mais un jour, tu pourrais reflancher, tu sais. » Fait que là, je suis « OK, tu sais, j'écoute ça. » Et elle me conseille d'aller aux rencontres de gamblers anonymes. Mais là, je voulais pas y aller. Mais ça, c'est ça. Ce qui est dit dans Réunion, là, je peux pas vous le raconter, c'est comme confidentiel. Mais j'étais allé, puis c'était lourd en émotion, c'était lourd. Les gens font des témoignages. Je suis sorti de là, mais j'étais shaké, j'étais secoué. Moi, je suis, répétez pas ça à personne, là, mais je suis, malgré que j'ai l'air d'une brute, tu sais, 5 pieds 9, 250 livres, je suis un peu gras de ce temps-ci. La barbe, tu sais, j'ai l'air de ce qu'on appelle un dur à cuire, là. Je pourrais jouer le rôle d'un assassin dans un film d'Assassin's Creed, tu sais. Mais à l'intérieur, là, je suis aussi, je suis un peu comme grosse douceur, là, le mauve dans McDonald's, chez McDonald's. Je suis pas mal plus, je suis assez doux, moi. Il y a pas grand agressivité là-dedans. Moi, je suis, moi, mon rêve, là, c'est de me faire jouer dans les cheveux toute la journée. Fait que là, je m'en vais à cette rencontre-là, puis j'étais comme chargé d'émotions cette semaine. Il y a la femme de ma vie qui est revenue de vacances aussi. Fait que là, j'étais troublé. J'étais troublé, trop d'émotions dans la même semaine. Hier, tu sais, j'ai fait une erreur. Au lieu d'aller chez mon bon ami Jonathan Giria, qui avait commandé, là, tenez-vous bien, là, hier, il s'était abonné à Apple TV pour écouter le match du FC Montréal. Il avait acheté la lutte sur Fit TV et il s'était abonné à RDS Plus pour écouter le match du Canadien de Montréal. Il me dit juste hier, 33$ de pay-per-view. Tu sais. Fait que là, je dis OK, j'aurais pu aller chez Joe écouter tout ça, mais j'ai décidé d'aller au bar au centre-ville. Écoutez, Canadien tout seul, j'ai bu 6 bières, 2 shooters. Mais tenez-vous bien, je suis tombé dans une grave mélancolie. J'ai regretté tous les choix personnels que j'ai pris dans ma vie. Il n'y a aucun choix personnel de mes 41 premières années que je n'ai pas regretté hier. J'ai regretté chaque fois que j'ai joué. J'ai regretté chaque fois que j'ai repris du poids après une diète. J'ai regretté de ne pas être allé à l'école. J'ai regretté de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir de femme, de ne pas avoir été chercher mon permis de conduire comme le monde normal. J'ai regretté de ne pas être un meilleur athlète. J'ai regretté de ne pas avoir mieux géré Boxing Town Québec, de ne pas avoir mieux fait mon, de pas avoir fait mon podcast en vidéo, de ne pas avoir fiancé Martine Vanier-Bisson. Il n'y a rien, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis là, mais là, tenez-vous bien, là, à mesure que l'alcool descendait, là, ben, j'étais dangereux pour moi-même. Un moment donné, je voulais me pitcher devant le boulevard Saint-Laurent. Après ça, je regardais le métro. Je disais, c'est super dangereux l'alcool. Puis là, je me rends compte que je ne peux plus jouer. Mais je me rends compte aussi que je ne peux plus boire. Tu sais. Fait que, c'est... En tout cas, des introductions vraiment joyeuses où vous voyez que l'alcool me rend fou. J'ai arrêté de jouer. Puis je regrette les 41 premières années de ma vie. C'est comme ça que je me sens présentement. Je regrette tout. Je suis pas à l'aise avec rien. Je suis pas. Tous mes choix, je trouve que c'est des mauvais choix. Je me trouve pas beau tout nu quand je sors de la douche. Ça va vraiment pas bien. Alors, c'était ton introduction la plus joyeuse de l'histoire. Et faites-vous-en pas. Ça paraîtra pas. Je vais vous faire un podcast quand même.
C'est moi le best, on m'aime en cachette comme un gars de Michel. Ceux qui sont pas d'accord se plaignent comme Yvon Michel.
En direct, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, j'aime bien ça ton podcast parce que c'est assez simple. Hein? L'introduction, boxe québécoise, boxe internationale, tu vas nous lire boxe rec, puis c'est fini. Là, je dis, ben ouais, mais pourquoi je me casserais le bicycle? Je dis, la formule est impeccable. Quand tu as trouvé la bonne formule, là, mais ta garoche, mais là, c'est sûr que... Moi, je trouve, par exemple, que c'est mon entrain problème. J'ai comme beaucoup d'entrain sur la boxe québécoise, puis là, je brise un peu plus tard. Mais là, j'ai plein d'opinions cette semaine, plein d'affaires à vous conter. Mais il y a un événement majeur cette semaine à Riyad. Je sais même pas c'est où, Riyad. L'autre fois, j'ai dit que c'était en Arabie Saoudite. Le monde riait de moi. Je comprends rien. Moi, je suis pas Carmen San Diego. Je connais les boxeurs. Je connais tous les règlements des quatre associations. J'ai des anecdotes qui peuvent reculer jusqu'en 87, ça boxe au Québec. Mais demandez-moi pas qu'est-ce qui est où, puis c'est dans quel pays, puis c'est quoi le régime politique là-bas. Là. Je comprends rien à ça. Puis je comprends rien aussi au décalage horaire. Okay? Fait qu'achalez-moi pas avec ça. Ce que je sais, c'est que une journée de décalage... C'est une heure. Une heure, c'est une journée. Fait que si les boxeurs ont 7 heures de décalage, ils vont arriver 7 jours à l'avance pour être sûr que le décalage ne pèse pas sur leur performance. C'est ça que j'ai compris. Cette semaine, on a Simon Kane qui va affronter Joseph Parker. Le plus grand combat de sa vie. On a Arslanbek Makhmoudov qui va affronter Junior Wright. Un des combats de sa carrière. C'est vraiment pas la grosse affaire. Mais, cette semaine, pour enrichir mon podcast, je l'ai fait, là, 2 heures d'autobus, pour aller rencontrer Marc Ramsey. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous sacrer l'entrevue avec Marc Ramsey, puis après ça, je vais vous parler des deux combattants en question.
Marc, quand tu es arrivé chez Eye of the Tiger, moi, je me demandais, est-ce que Marc fera la différence? Parce que je trouve que quand on part une promotion de boxe, des fois, tout va bien, puis là, un jour, il faut trouver des adversaires top 10, il faut comme passer à l'autre étape. Est-ce que c'est ça qu'on voit récemment depuis Carlos Congora, qui était 7e sur BoxRec? Là, on voit Rowan Murdoch, 9e. On voit Joseph Parker, qui est assurément classé. Est-ce que c'est la grande envolée pour Eye of the Tiger?
Bien, on le souhaite. Il y a toujours, bien sûr, l'évolution que le boxeur fait. Il faut y aller au moment où il est prêt dans son parcours. Mais je te dirais aussi qu'il y a une question de moyens financiers, de moyens aussi comment le marché se comporte quand c'est le temps de passer à l'action. Et puis, on essaie de vraiment mettre sous contrat le boxeur qui va nous apporter le plus au niveau des classements, au niveau de l'expérience aussi pour le boxeur de l'écurie. On est en mesure de le faire dans les derniers mois. Je pense que c'est un pas de plus. Encore une fois, là, on peut le voir avec Simon là, qui s'en va dans un combat majeur. Alors, c'est ce qu'on souhaite.
OK, j'ai une autre question. Moi, souvent, là, j'ai ma feuille chez nous puis je fais des grandes théories. Arslanbek Makhmoudov, changement d'adversaire, un gars de 6 pieds. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Là.
Ah, mais non, mais pas en ce moment, vraiment, on va se concentrer là-dessus. Pour être honnête, rendu à ce niveau-là, quand on commence à faire des shows à l'extérieur comme ça, avec des réseaux de TV majeurs, avec des programmes majeurs, on n'a plus grand-chose à dire. T'sais, est-ce que tu es prêt, oui ou non, que ce soit ESPN, DAZN, que ce soit aller sur un show comme on voit avec Tyson Fury en ce moment? Est-ce que vous êtes prêt à boxer, oui ou non? On te demande même pas. Ça va être ce gars-là. Merci, bonsoir, ça finit là. On a à peu près rien à dire. Si on commencerait à dire, ouais, mais peut-être lui, mais pas lui, mais lui, oui, on se ferait tasser de là. Rapidement à part de ça. Alors, c'est le fun, tous ces gros spectacles-là, ces grandes sorties internationales-là, mais il faut que ton boxeur soit prêt parce qu'il n'y aura pas. Le jour qu'ils vont dire que c'est. Tu regarde, on donne à Simon un gars qui. On n'a pas demandé 14 gars, là. Tu prends-tu le combat, c'est Joseph Parker, oui ou non?
J'ai plusieurs espions dans ton gymnase, puis on me dit que John Orobio, vous êtes particulièrement séduit par le jeune homme, le boxeur. Peux-tu m'en parler un peu plus?
Effectivement. On aime beaucoup de choses qu'on voit de lui. Souvent, on a des boxeurs, puis il y a ce qu'on voit en vidéo, il y a ce qu'on voit quand on les accueille dans le gymnase. Dans son cas, lui, c'est assez clair qu'il est très complet. Puis pour un entraîneur, c'est vraiment important. Il nous impressionne. Ça peut être un sparring au niveau défensif, au niveau de la rapidité, au niveau de comment il se comporte. Il est arrivé ici, puis vous pouvez en parler à Christian Billy. Il challenge dans tous les exercices. Ça fait longtemps que Christian ne s'était pas fait challenger. Il pousse, il veut gagner chaque sprint, chaque... il y a la bonne éthique de travail qui va avec tout ça. Offensivement, c'est un gars qui cogne, qui est rapide. On a beaucoup d'atouts dans notre jeu de cartes avec lui, là.
Merci, Marc.
Ça fait plaisir.
Ben ouais, je me rappelais pas à quel point. Là, vous voyez, là, je suis pas le meilleur intervieweur. Là, je suis pas Stéphane Bureau à TVA. Mais ça a permis d'avoir des bonnes réponses de Marc Ramsey. Première chose que j'ai compris, tu contrôles pas grand-chose quand tu vas boxer en Arabie Saoudite. Ben, si Riyad est en Arabie Saoudite, je suis même pas sûr. Puis là, tu sais, vous avez vu, les gens vont souvent avoir le réflexe de dire pourquoi c'est pas Makhmoudov contre Parker, puis c'est pas Kane contre Junior Wright. Mais Marc vous l'a bien répondu ici, là, on contrôle absolument rien. Il nous dit, si lui, tu y vas, tu y vas pas. Mais il faut que vous compreniez à la maison que pour nos amis de Eye of the Tiger, là, c'est parfait. C'est parfait. Tu fais avancer les deux carrières d'une certaine manière. Makhmoudov va avoir énormément de visibilité internationale. Simon Kane va avoir la chance de sa vie, puis qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça te donne? Mais ça fait avancer les deux carrières, puis ça fait que tu n'as pas besoin de payer. C'est eux là-bas qui payent. Énorme visibilité internationale, chance pour Simon Kane de battre peut-être Parker, puis de devenir un incontournable déjà chez les lourds, puis quelqu'un qui se bat d'un million. Pour Makhmoudov, c'est un boxeur musulman, dans une terre musulmane, avec du monde qui ont beaucoup trop de milliards à dépenser. Donc, tu remportes, tu knocks Junior Wright, tu es classé troisième au titre de Fury. Puis Fury, même si, je vais vous dire un mot qui est banni à l'Assemblée nationale, c'est une girouette qui change de... Oh, référence historique à Jean Charest, qui avait traité Mario Dumont de girouette en 2005. Vous ne direz pas que c'est un podcast intellectuel ici. Je pense que c'en est un. Et je t'ai rendu où dans mon histoire? Ben c'est ça. Tyson Fury, c'est une girouette qui peut changer d'idée à tout moment. Mais quand même, il a dit « Je veux faire 10 autres combats. » Ben, je vous l'annonce. S'il fait 10 autres combats, un moment donné, ça va être Makhmoudov. Puis je vous l'annonce, les Anglais n'ont même plus les moyens de se payer Tyson Fury. Fait que ça va être tout, mais ça va être là-bas. Pensez-vous qu'ils vont pas triper? Ça s'appelle Riyad saison. Pourquoi? Parce que c'est le début d'une saison de combat. Ils viennent de se payer la lutte aussi. C'est eux, ils mettent leur tag Riyad saison partout. Ça, lutte, sud, golf, MMA. Bon, bref, ils ont les moyens de faire d'autres gros galas. Est-ce que ce sera Wilder Makhmoudov? Est-ce que ce sera Fury Makhmoudov? Est-ce que ce sera Parker Makhmoudov? Ce que Makhmoudov n'a pas le luxe de faire, et je vais vous donner un exemple. Quand Oscar Rivas était allé en France pour affronter Gabriel Nguema, il était grippé que le tabarnache. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a mal paru. Ils n'ont jamais donné TACAM, puis ils ont fermé le contrat qui est avec TACAM, puis la grosse télévision française, de dire on n'est plus intéressé à Rivas. Le danger, c'est qu'il faut que Makhmoudov il soit incisif, violent et qui fascine les gens là-bas pour revenir. Il ne peut pas se permettre une contre-performance où, exemple, Junior Wright profiterait du grand ring. On entend que ça pourrait être un 24 par 24 que Fury a exigé ou son équipe. Il ne faudrait pas que Junior Wright profite du grand ring, danse autour de Makhmoudov, qu'il trappe au 9e, que la session contre-performance, qu'on entend plus jamais parler de Makhmoudov là-bas. T'sais. Il faut que Makhmoudov passe sur le corps de Junior Wright. Là, vous allez me dire à la maison, c'est qui Junior Wright? Ben, excellente question. Hein? On voit, c'est vous autres qui devriez poser des questions à Mark Ramsey. Ben, quoi que ça a donné une grande entrevue, là, mes questions. Mais c'est qui ça, Junior Wright? 20 victoires, 4 défaites, 1 nulle. Surnommé The Hurricane, l'ouragan. C'est un gars de 6 pieds qui vient des catégories inférieures. Ça n'a pas de saint bon sens comme adversaire, on va se dire la vérité. Là. Moi, si j'étais commissaire au Québec, je ne sais même pas si je l'accepte. T'sais. Il a perdu en 2 rondes contre Joe Jones. Après être allé au tapis au 1er et au 2e en 2021 à New York, il pesait 2,14. Ben, Joe Jones, là, pas. C'est un gars de 2,14 t'sais, qui a gelé notre Junior Wright. Junior Wright, ben, il se bat à tous les poids, par exemple. C'est un gars que son poids joue en. Peut jouer de 40 livres dans la même année, là, c'est comme un peu comme moi. Mais moi, c'est 50 livres. Mais tu sais, c'est un gars qui a été knocké en début de carrière quand il s'est battu pour la IBO à Cruiserweight à 200 livres par Rakim Chakiev. C'est un gars qui s'est fait arrêter par Bibut Shumenov, n'avait pas gagné un round à 199 livres. Tu sais, il s'est battu à 200 livres aussi en Russie contre Ruslan Fefer. Tu sais, dans ces combats-là qui sont un haut niveau, il a tendance à pas gagner un round. Puis des fois, il va surprendre des demi-prospects comme... Ouais, c'est pas vraiment un prospect. Le Brian Howard, qui est quand même crédible, là, mais qui est pas... Non, il est pas crédible. Ben, je pourrais-tu dire que Brian Howard est crédible? T'sais, on l'a vu contre Jack Ball, on l'a vu contre Sanchez, mais tu sais, il l'a battu. Fait que là, on verra bien. Mais j'ai l'impression que Makhmoudov va gagner au 2e round et... J'ai aussi l'impression que c'est le début d'une grande aventure pour Makhmoudov. Ariad, tenez-vous prêt pour la suite des choses. On a sur la même carte votre bon ami Joseph Parker qui, lui, va affronter Simon Kane. Là, Simon Kane, là, c'est un Olympien. C'est un gars qui... Il n'est jamais rentré dans un combat comme un boxeur négligé. Okay? Il a toujours été le bon vieux Simon. A toujours été largement favori dans ses combats. Il n'a jamais vraiment eu de réel défi. Okay? Il y a des combats qui ont mal tourné comme sa défaite. Il y a des combats qui ont... était plus compliqué qu'il aurait dû être contre Terrell Shandell Winters. Il y a des combats où il a très bien fait contre Sergei Ljakovic, où il affrontait des personnes un peu plus âgées, mais qu'il a fait ce qu'il avait à faire puis il nous a montré une très belle technique. Mais il ne s'est jamais battu à un niveau où il était négligé puis qu'il nous a surpris. T'sais, il a toujours battu des gars qui devaient battre. T'sais, pour dire la vraie affaire. Et là, il arrive contre Joseph Parker. Parker, lui, c'est comme une petite super vedette. Là, il était en boxe amateur. Moi, je me rappelle de lui comme si c'était hier. Parce qu'en boxe amateur, il faisait des guerres avec Junior Fa, Philippe Ergovic au championnat du monde junior en 2010. Aux Olympiques juniors, il avait perdu contre Tony Yoka. Je me rappelle de lui une fois, là, tenez-vous bien, c'était au jeu du Commonwealth. Moi, je dois avoir à peu près 28 ans, OK? Là, j'écoute ça. Ben, j'écoute ça. À l'époque, l'Internet n'existe même pas. Je me renseigne sur ce qui est arrivé. Puis Didier Benz est en train de rincer Parker à New Delhi, en Inde, et il a brisé il n'y avait plus rien. Le réservoir, vide, vide, vide. Et là, Parker l'a remonté. Il a perdu. Didier Benz a affronté Parker. Là, Parker, lui, il est allé en 2011. Il s'est fait éliminer par Zay Lezang, que vous connaissez bien. Il va aller en série mondiale de boxe. Il va perdre tous ses combats. Tu sais. Ça va bien. Il va réaffronter. Il va réaffronter Junior Fa parce qu'il essaie de se qualifier pour les Olympiques. Puis là, il stagne puis il passe pro. C'est un, vous voyez, beau résumé de carrière. Là, en passant en pro, là, c'est la grosse affaire. Okay? Burger King en Nouvelle-Zélande, ils vont s'associer à lui puis ils vont mettre des pancartes partout avec le Whopper à côté. Chaque victoire de Joseph Parker vient avec un Whopper. Okay? Puis là, Parker, il va faire ce qu'il a à faire. À son septième combat, il va battre des gars comme Nascimento, Brian Minto, du monde que seul Noé Cloutier connaissent vraiment, là, mais ce sont des poids lourds corrects. Il va battre Sherman le Tank William pour gagner une tonne de ceinture WBO. Et là, il va affronter Jason Pettaway, que Oscar Rivas a battu en un round. Lui, il va le battre en quatre. Fait sa petite affaire et tout ça va le mener à gagner une tonne de titres WBO, Afrique, Commonwealth, en voulez-vous des patentes qui font pas de sens. Et là, il va battre Carlos Takam en 2016 dans un combat serré. Puis c'est ça qui le propulse. Ça va le propulser. Il va affronter son confrère, Suleiman Omono. Il va battre Alexander Dimitrenko. Et là, c'est le gros combat. Pour le titre de la WBO vacant. Il va battre par la plus petite majorité. Majorité, je ne sais pas comment le dire. La victoire la plus courte qu'on peut faire en boxe. 215-113, 114-114. Gagne par un 7-5 sur deux juges. Il va battre Andy Ruiz chez eux à Auckland. En Australie, mais chez eux, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais ça doit être comme Longueuil puis Laval. Fait que victoire de Joseph Parker sur Andy Ruiz. Il va défendre son titre contre Razvan Khojanu. Il va rincer Yogi Fury. Et là, c'est la grosse affaire. Et là, Joshua va jouer avec pendant 12 rounds. Il va essayer de se refaire, profiter de la visibilité qu'il a eu contre Joshua. Il va revenir contre Dillian White. Où il perd, c'est serré, serré, serré. Il va au tapis au deuxième, au neuvième. Il envoie White au douzième. Il est temps que le combat finisse. Il perd par quelques points. Et là, décide de se reconstruire. Alexander Flores, Alex Lepaille, Shandell Terrell Winters, Junior Fa. Ils l'ont fait souvent chez les amateurs. Il l'a battu assez aisément chez les pros. Il va battre deux fois de suite Derek Chisora par des infimes minorités. Majorité. Revient contre Joe Joyce dans un combat important. Il se fait couper à l'œil. Il se fait endormir. C'est une gauche au menton. Merci, bonsoir. Il gagnait pas. Il perdait au juge. Là, ça y est, c'est fini. Pauvre Parker. 6 pieds 5, 2,55 contre Joyce. C'est un monsieur, là. 6-5, 2,55. Là, il revient. Il va battre Jack Massey de peine et de misère. Il y en a qui disent que Massey aurait mérité un meilleur sort. Et boum, démolit son confrère Figa Oupelou. Et là, il se ramasse joueur autonome sans compensation, signe des combats à pièces avec les Arabes, et là, va affronter notre bon ami Simon Kane. Ce qu'il faut savoir de Joseph Parker, imaginez-vous un poids moyen dans un corps de 6'5", 2'50". Il se déplace, il ne fait pas d'erreur technique, pas le plus gros cogneur, mais ouais, ce gars-là est vraiment bon. Hein? Puis il en a vu du monde. Là. Il a vu Joyce. Il a vu Chisora. Il a vu Joshua. Il a vu Junior Fa. Dillian White. Yogi Fury. Andy Ruiz. Il en a vu d'autres. Là. Ça va être excessivement compliqué pour Simon. Simon, toujours la chance du cogneur, peut se déplacer avec un jab. Le meilleur scénario envisageable, c'est que Simon s'en sorte avec un KO peut-être en deuxième moitié de combat, puis que sa valeur soit à la hausse pour quelqu'un qui voudrait faire un comparable, puis qu'il puisse faire deux grosses bourses avant de penser à rester au Québec ou se retirer.
Ça, c'est le scénario envisageable positif. Le scénario envisageable club optimiste, c'est qu'il knock Parker puis que là, il se bat pour 1 million tout le temps. Puis le scénario pessimiste, c'est qu'il se fasse arrêter tôt dans le combat puis que ce soit la fin des haricots puis qu'il perde toute motivation. Alors, c'était ta chronique Box à Riyad. Il va falloir que je te parle de Fury tantôt à toi à la maison. Et j'ai une grande annonce à faire. Il y aura, tenez-vous bien, un avant-match gratuit sur Boxing Town de Québec et nous recevrons Régent Tremblay, mesdames et messieurs. En direct, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, j'aime bien ça ton podcast parce que c'est assez simple, hein? L'introduction, boxe québécoise, boxe internationale, tu vas nous lire Boxe Rec, puis c'est fini. Là, je dis, ben ouais, mais pourquoi je me casserais le bicycle? Je dis, la formule est impeccable. Quand tu as trouvé la bonne formule, mais ta garoche, ben là, c'est sûr que, moi, je trouve, par exemple, que c'est mon entrain problème. J'ai comme beaucoup d'entrain sur la boxe québécoise, puis là, je brise un peu plus tard. Mais là, j'ai plein d'opinions cette semaine, plein d'affaires à vous conter. Mais il y a un événement majeur cette semaine à Riyad. Je ne sais même pas c'est où, Riyad. L'autre fois, j'ai dit que c'était en Arabie Saoudite. Le monde riait de moi. Je comprends rien. Moi, je ne suis pas Carmen San Diego. Je connais les boxeurs. Je connais tous les règlements des 4 associations. J'ai des anecdotes qui peuvent reculer jusqu'en 87, ça boxe au Québec. Mais demandez-moi pas qu'est-ce qui est où, puis c'est dans quel pays, puis c'est quoi le régime politique là-bas. Là. Je comprends rien à ça. Puis je comprends rien aussi au décalage horaire. Okay? Fait qu'achalez-moi pas avec ça. Ce que je sais, c'est que une journée de décalage, c'est 1 heure. Une heure, c'est une journée. Fait que si les boxeurs ont 7 heures de décalage, ils vont arriver 7 jours à l'avance pour être sûr que le décalage ne pèse pas sur leur performance. C'est ça que j'ai compris. Cette semaine, on a Simon Kane qui va affronter Joseph Parker. Le plus grand combat de sa vie. On a Arslanbek Makhmoudov qui va affronter Junior Wright. Un des combats de sa carrière. C'est vraiment pas la grosse affaire. Mais cette semaine, pour enrichir mon podcast, je l'ai fait, là, 2 heures d'autobus, pour aller rencontrer Marc Ramsey. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous sacrer l'entrevue avec Marc Ramsey, puis après ça, je vais vous parler des 2 combattants en question.
Marc, quand tu es arrivé chez Eye of the Tiger, moi, je me demandais, est-ce que Marc fera la différence? Parce que je trouve que quand on part une promotion de boxe, des fois, tout va bien, puis là, un jour, il faut trouver des adversaires top 10, il faut comme passer à l'autre étape. Est-ce que c'est ça qu'on voit récemment depuis Carlos Congora, qui était 7e sur BoxRec? Là, on voit Rowan Murdoch, 9e. On voit Joseph Parker, qui est assurément classé. Est-ce que c'est la grande envolée pour Eye of the Tiger?
Bien, on le souhaite. Il y a toujours, bien sûr, l'évolution que le boxeur fait. Il faut y aller au moment où il est prêt dans son parcours. Mais je te dirais aussi qu'il y a une question de moyens financiers, de moyens aussi comment le marché se comporte quand c'est le temps de passer à l'action. Et puis, on essaie de vraiment mettre sous contrat le boxeur qui va nous apporter le plus au niveau des classements, au niveau de l'expérience aussi pour le boxeur de l'écurie. On est en mesure de le faire dans les derniers mois. Je pense que c'est un pas de plus. Encore une fois, là, on peut le voir avec Simon là, qui s'en va dans un combat majeur. Alors, c'est ce qu'on souhaite.
OK, j'ai une autre question. Moi, souvent, là, j'ai ma feuille chez nous puis je fais des grandes théories. Arslanbek Makhmoudov, changement d'adversaire, un gars de 6 pieds. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, là.
Ah, mais non, mais pas en ce moment, vraiment, on va se concentrer là-dessus. Pour être honnête, rendu à ce niveau-là, quand on commence à faire des shows à l'extérieur comme ça, avec des réseaux de TV majeurs, avec des programmes majeurs, on n'a plus grand-chose à dire. T'sais, est-ce que tu es prêt, oui ou non, que ce soit ESPN, DAZN, que ce soit aller sur un show comme on voit avec Tyson Fury en ce moment? Est-ce que vous êtes prêt à boxer, oui ou non? On ne te demande même pas, ça va être ce gars-là. Merci, bonsoir, ça finit là, on a à peu près rien à dire. Si on commencerait à dire, ouais, mais peut-être lui, mais pas lui, mais lui, oui, on se ferait tasser de là. rapidement à part de ça. Alors, c'est le fun, tous ces gros spectacles-là, ces grandes sorties internationales-là, mais il faut que ton boxeur soit prêt parce qu'il n'y aura pas. Le jour qu'ils vont dire que c'est. Tu regarde, on donne à Simon un gars qui. On n'a pas demandé 14 gars. Là. Tu prends-tu le combat, c'est Joseph Parker, oui ou non?
J'ai plusieurs espions dans ton gymnase, puis on me dit que John Orobio, vous êtes particulièrement séduit par le jeune homme, le boxeur. Peux-tu m'en parler un peu plus?
Effectivement. On aime beaucoup de choses qu'on voit de lui. Souvent, on a des boxeurs, puis il y a ce qu'on voit en vidéo, il y a ce qu'on voit quand on les accueille dans le gymnase. Dans son cas, lui, c'est assez clair qu'il est très complet. Puis pour un entraîneur, c'est vraiment important. Il nous impressionne. Ça peut être un sparring au niveau défensif, au niveau de la rapidité, au niveau de comment il se comporte. Il est arrivé ici, puis vous pouvez en parler à Christian Billy. Il challenge dans tous les exercices. Ça fait longtemps que Christian ne s'était pas fait challenger. Il pousse, il veut gagner chaque sprint. Il y a la bonne éthique de travail qui va avec tout ça. Offensivement, c'est un gars qui cogne, qui est rapide. On a beaucoup d'atouts dans notre jeu de cartes avec lui. Là.
Merci, Marc.
Ça fait plaisir.
Ben ouais, je me rappelais pas à quel point. Là, vous voyez, là, je suis pas le meilleur intervieweur. Là, je suis pas Stéphane Bureau à TVA. Mais ça a permis d'avoir des bonnes réponses de Marc Ramsey. Première chose que j'ai compris, tu contrôles pas grand-chose quand tu vas boxer en Arabie Saoudite. Ben, si Riyad est en Arabie Saoudite, je suis même pas sûr. Puis là, tu sais, vous avez vu, les gens vont souvent avoir le réflexe de dire pourquoi c'est pas Makhmoudov contre Parker, puis c'est pas Kane contre Junior Wright. Mais Marc vous l'a bien répondu ici, là, on contrôle absolument rien. Il nous dit, si lui, tu y vas pas. Mais il faut que vous compreniez à la maison que pour nos amis de Eye of the Tiger, là, c'est parfait. C'est parfait. Tu fais avancer les deux carrières d'une certaine manière. Makhmoudov va avoir énormément de visibilité internationale. Simon Kane va avoir la chance de sa vie, puis qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça te donne? Mais ça fait avancer les deux carrières, puis ça fait que tu n'as pas besoin de payer. C'est eux là-bas qui payent. Énorme visibilité internationale, chance pour Simon Kane de battre peut-être Parker, puis de devenir un incontournable déjà chez les lourds, puis quelqu'un qui se bat d'un million. Pour Makhmoudov, c'est un boxeur musulman, dans une terre musulmane, avec du monde qui ont beaucoup trop de milliards à dépenser. Donc, tu remportes, tu knocks Junior Wright, tu es classé troisième au titre de Fury. Puis Fury, même si, je vais vous dire un mot qui est banni à l'Assemblée nationale, c'est une girouette qui change de... Oh, référence historique à Jean Charest, qui avait traité Mario Dumont de girouette en 2005. Vous ne direz pas que c'est un podcast intellectuel ici. Je pense que c'en est un. Et je t'ai rendu où dans mon histoire? Ben c'est ça. Tyson Fury, c'est une girouette qui peut changer d'idée à tout moment. Mais quand même, il a dit « Je veux faire 10 autres combats. Ben, » mais je vous l'annonce. S'il fait 10 autres combats, un moment donné, ça va être Makhmoudov. Puis je vous l'annonce, les Anglais n'ont même plus les moyens de se payer Tyson Fury. Fait que ça va être tout, mais ça va être là-bas. Pensez-vous qu'ils vont pas triper? Ça s'appelle Riyad saison. Pourquoi? Parce que c'est le début d'une saison de combat. Ils viennent de se payer la lutte aussi. C'est eux, ils mettent leur tag Riyad saison partout. Ça, lutte, sud, golf, MMA. Bon, bref, ils ont les moyens de faire d'autres gros galas. Est-ce que ce sera Wilder Makhmoudov? Est-ce que ce sera Fury Makhmoudov? Est-ce que ce sera Parker Makhmoudov? Ce que Makhmoudov n'a pas le luxe de faire, et je vais vous donner un exemple. Quand Oscar Rivas était allé en France pour affronter Gabriel Nguema, il était grippé que le tabarnache. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a mal paru. Ils n'ont jamais donné TACAM, puis ils ont fermé le contrat qu'il y avait avec TACAM, puis la grosse télévision française a dit « On n'est plus intéressé à Rivas. » Le danger, c'est qu'il faut que Makhmoudov il soit incisif, violent, et qui fascine les gens là-bas pour revenir. Il ne peut pas se permettre une contre-performance où, exemple, Junior Wright profiterait du grand ring. On entend que ça pourrait être un 24 par 24 que Fury a exigé, ou son équipe. Il ne faudrait pas que Junior Wright profite du grand ring, danse autour de Makhmoudov, qu'il trappe au 9e, que la session de contre-performance, qu'on n'entend plus jamais parler de Makhmoudov là-bas. T'sais. Il faut que Makhmoudov passe sur le corps de Junior Wright. Là, vous allez me dire à la maison, c'est qui Junior Wright? Ben, excellente question. Hein? On voit, c'est vous autres qui devriez poser des questions à Marc Ramsey. Ben, quoi que ça a donné une grande entrevue, là, mes questions. Mais c'est qui ça, Junior Wright? 20 victoires, 4 défaites, 1 nul. Surnommé The Hurricane, l'ouragan. C'est un gars de 6 pieds qui vient des catégories inférieures. Ça n'a pas de saint bon sens comme adversaire, on va se dire la vérité. Là. Moi, si j'étais commissaire au Québec, je ne sais même pas si je l'accepte. T'sais. Il a perdu en 2 rondes contre Joe Jones. Après être allé au tapis au premier et au deuxième en 2021 à New York, il pesait 2,14. Ben, Joe Jones, là, pas. C'est un gars de 2,14 t'sais, qui a gelé notre Junior Wright. Junior Wright, ben, il se bat à tous les poids, par exemple. C'est un gars que son poids joue en. Peut jouer de 40 livres dans la même année, là, c'est comme un peu comme moi. Mais moi, c'est 50 livres. Mais tu sais, c'est un gars qui a été knocké en début de carrière quand il s'est battu pour la IBO à Cruiserweight à 200 livres par Rakim Chakiev. C'est un gars qui s'est fait arrêter par Bibut Shumenov, n'avait pas gagné un round à 199 livres. Tu sais, il s'est battu à 200 livres aussi en Russie contre Ruslan Fefer. Tu sais, dans ces combats-là qui sont un haut niveau, il a tendance à pas gagner un round. Puis des fois, il va surprendre des demi-prospects comme... Ouais, c'est pas vraiment un prospect. Le Brian Howard, qui est quand même crédible, là, mais qui est pas... Non, il est pas crédible. Ben, je pourrais-tu dire que Brian Howard est crédible? T'sais, on l'a vu contre Jack Ball, on l'a vu contre Sanchez, mais tu sais, il l'a battu. Fait que là, on verra bien. Mais j'ai l'impression que Makhmoudov va gagner au deuxième round et... J'ai aussi l'impression que c'est le début d'une grande aventure pour Makhmoudov. Ariad, tenez-vous prêt pour la suite des choses. On a sur la même carte votre bon ami Joseph Parker qui, lui, va affronter Simon Kane. Là, Simon Kane, là, c'est un Olympien. C'est un gars qui... Il n'est jamais rentré dans un combat comme un boxeur négligé. Okay? Il a toujours été le bon vieux Simon. A toujours été largement favori dans ses combats. Il n'a jamais vraiment eu de réels défis. Okay? Il y a des combats qui ont mal tourné, comme sa défaite. Il y a des combats qui ont... était plus compliqué qu'il aurait dû être contre Terrell Shandell Winters. Il y a des combats où il a très bien fait contre Sergei Ljakovic, où il affrontait des personnes un peu plus âgées, mais qu'il a fait ce qu'il avait à faire puis il nous a montré une très belle technique. Mais il ne s'est jamais battu à un niveau où il était négligé puis qu'il nous a surpris. T'sais, il a toujours battu des gars qui devaient battre. T'sais, pour dire la vraie affaire. Et là, il arrive contre Joseph Parker. Parker, lui, c'est comme une petite super vedette. Là, il était en boxe amateur. Moi, je me rappelle de lui comme si c'était hier. Parce qu'en boxe amateur, il faisait des guerres avec Junior Fa, Philippe Ergovic au championnat du monde junior en 2010. Aux Olympiques juniors, il avait perdu contre Tony Yoka. Je me rappelle de lui une fois, là, tenez-vous bien, c'était au jeu du Commonwealth. Moi, je dois avoir à peu près 28 ans, OK? Là, j'écoute ça. Ben, j'écoute ça. À l'époque, l'Internet n'existe même pas. Puis je me renseigne sur ce qui est arrivé. Puis Didier Benz est en train de rincer Parker à New Delhi, en Inde, et il a brisé. Il n'y avait plus rien. Le réservoir, vide, vide, vide. Et là, Parker l'a remonté. Il a perdu. Didier Benz a affronté Parker. Là, Parker, lui, il est allé en 2011. Il s'est fait éliminer par Zai Lezang, que vous connaissez bien. Il va aller en série mondiale de boxe. Il va perdre tous ses combats. Tu sais. Ça va bien. Il va réaffronter. Il va se faire il va réaffronter Junior Fa parce qu'il essaie de se qualifier pour les Olympiques. Tu sais, puis là, il stagne, puis il passe pro. C'est un, vous voyez, beau résumé de carrière. Là, en passant en pro, là, c'est la grosse affaire, OK? Burger King, en Nouvelle-Zélande, ils vont s'associer à lui, puis ils vont mettre des pancartes partout avec le Whopper à côté. Chaque victoire de Joseph Parker vient avec un Whopper, OK? Puis là, Parker, il va faire ce qu'il a à faire. À son septième combat, il va battre des gars comme Nascimento, Brian Minto, du monde que seuls Noé Cloutier connaissent vraiment, là, mais ce sont des poids lourds corrects. Il va battre Sherman le Tank William pour gagner une tonne de ceinture WBO. Et là, il va affronter Jason Pettaway, que Oscar Rivas a battu en un round. Lui, il va le battre en quatre. Fait sa petite affaire et tout ça va le mener à gagner une tonne de titres WBO, Afrique, Commonwealth. En voulez-vous des patentes qui font pas de sens? Et là, il va battre Carlos Takam en 2016 dans un combat serré. Puis c'est ça qui le propulse. Jusque à... Ça va le propulser. Il va affronter son confrère, Suleiman Omono. Il va battre Alexander Dimitrenko. Et là, c'est le gros combat. Pour le titre de la WBO vacant. Il va battre par la plus petite majorité. Majorité, je ne sais pas comment le dire. La victoire la plus courte qu'on peut faire en boxe. 215-113, 114-114. Gagne par un 7-5 sur deux juges. Il va battre Andy Ruiz chez eux à Auckland. En Australie, mais chez eux, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais ça doit être comme Longueuil puis Laval. Fait que victoire de Joseph Parker sur Andy Ruiz. Il va défendre son titre contre Razvan Khojanu. Il va rincer Yogi Fury. Et là, c'est la grosse affaire. Et là, Joshua va jouer avec pendant 12 rounds. Il va essayer de se refaire, profiter de la visibilité qu'il a eu contre Joshua. Il va revenir contre Dillian White. Où il perd, c'est serré. Il va au tapis au deuxième, au neuvième. Il envoie White au douzième. Il est temps que le combat finisse. Il perd par quelques points. Et là, décide de se reconstruire. Alexander Flores, Alex Lepaille, Shandell Terrell Winters, Junior Fa. Ils l'ont fait souvent chez les amateurs. Il l'a battu assez aisément chez les pros. Il va battre deux fois de suite Derek Chisora par des infimes minorités. Majorité. Revient contre Joe Joyce dans un combat important. Il se fait couper à l'œil. Il se fait endormir sur une gauche au menton. Merci, bonsoir. Il gagnait pas. Il perdait au juge. Là, ça y est, c'est fini. Pauvre Parker. 6 pieds 5, 2,55 contre Joyce. C'est un monsieur, là. 6-5, 2,55. Là, il revient. Il va battre Jack Massey de peine et de misère. Il y en a qui disent que Massey aurait mérité un meilleur sort. Et boum, démolit son confrère Figa Oupelou. Et là, il se ramasse joueur autonome sans compensation, signe des combats à pièces avec les Arabes, et là, va affronter notre bon ami Simon Kane. Ce qu'il faut savoir de Joseph Parker, imaginez-vous un poids moyen dans un corps de 6'5", 2'50". Il se déplace, il ne fait pas d'erreur technique, pas le plus gros cogneur, mais... Ouais, ce gars-là est vraiment bon. Hein? Puis il en a vu du monde. Là. Il a vu Joyce. Il a vu Chisora. Il a vu Joshua. Il a vu Junior Fa. Dillian White. Yogi Fury. Andy Ruiz. Il en a vu d'autres. Là. Ça va être excessivement compliqué pour Simon. Simon, toujours la chance du cogneur, peut se déplacer avec un jab. Le meilleur scénario envisageable, c'est que Simon s'en sorte avec un KO peut-être en deuxième moitié de combat, puis que sa valeur soit à la hausse pour quelqu'un qui voudrait faire un comparable, puis qu'il puisse faire deux grosses bourses avant de penser à rester au Québec ou se retirer. Ça, c'est le scénario envisageable positif. Le scénario envisageable club optimiste, c'est qu'il knock Parker, puis que là, il se bat pour 1 million tout le temps. Puis le scénario... pessimiste, c'est qu'il se fasse arrêter tôt dans le combat, puis que ce soit la fin des haricots, puis qu'il perde toute motivation. Alors, c'était ta chronique boxe à Riyad. Il va falloir que je te parle de Fury tantôt à toi à la maison. Et j'ai une grande annonce à faire. Il y aura, tenez-vous bien, un avant-match gratuit sur Boxing Town de Québec et nous recevrons Régent Tremblay, mesdames et messieurs.
En direct avec le légendaire Sam Décarie qui vient de t'arrêter pendant que tu lisais ton Mozart.
Ouais.
Sam, parle-moi de l'adversaire de Christian Billy, puis en sous-question, est-ce que c'est dur de garder motivé un boxeur en sachant que Canelo bloque tout?
Première question, l'adversaire de Christian Billy, écoutez, M. Poulin. Hein? c'est un bon adversaire. Il y en a beaucoup qui se disent « C'est qui? On ne le connaît pas. Jamais entendu parler. Jamais vu. » Ben, il a une belle vitesse. Un beau jab. Si on regarde le combat justement là, contre Parker, il donnait du fil à retordre à Parker. Il a asséné plusieurs bons coups. Il aimait boxer aussi en contre-attaque. Donc, il attendait que Parker lance pour pouvoir relancer avec 2-3 coups. Il terminait fort. Il s'est fait surprendre en fin de combat, mais sinon, c'est un combat qui était très compétitif. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas entendu parler de cet adversaire-là qu'il n'est pas bon. Il est classé aussi 9e à la IBF, mais il a déjà été mieux classé que ça là, ailleurs aussi. Donc, moi, je suis quand même satisfait de l'adversaire, sachant que les autres adversaires sont très difficiles à aller chercher ou ne veulent pas affronter Christian là, à ce stade-ci de leur carrière. Maintenant, sachant que Canelo monopolise les titres à 168 livres, c'est sûr que ça peut être difficile de rester motivé pour un gars comme Christian Billy qui rêve des plus grands succès. Je ne sais pas combien de temps ça va durer avec Canelo puisque là, à chaque fois qu'il se bat, il va chercher des gars soit dans des catégories plus basses ou dans des catégories plus hautes. À un moment donné, les gens devraient dire les associations devraient mettre leur culotte un petit peu puis dire « ben là, il faut que tu défendes tes obligatoires ». Parce que si on regarde, disons, comme un gars comme Arthur Beterbiev, lui, il fait juste ça, faire des obligatoires. On est obligé à chaque fois là, de se prendre contre un obligatoire d'une association. Mais Canelo, on voit pas ça. Donc, c'est là que ça devient un petit peu frustrant là, à certains égards. Mais Christian fait ses devoirs, reste dans le gymnase, puis quand le téléphone va sonner pour Canelo, on va être prêt.
Merci.
On continue mon segment Eye of the Tiger, c'est parce que Eye of the Tiger ne me laisse pas me reposer récemment. Et là, je vais même vous faire une prédiction. Je sais que je ne suis pas supposé faire ça, mais là je vais briser, OK? Je vais briser le poteau rose, OK? Parce que là vous apprendrez pas à une vieille grimace comme Laurent Poulain et la boxe professionnelle, OK? Deux affaires que je vais briser. OK, les journalistes à la maison, les jeunes qui m'écoutent pour essayer d'apprendre, les jeunes qui ont d'autres podcasts ou des jeunes qui pratiquent le métier de journaliste sportif, je vais littéralement vous donner mes trucs dans le prochain segment. OK, vous allez dire, comment qu'il fait, Poulain, pour toujours tout connaître? Et non, je connais pas tout. Je suis juste plus curieux que vous autres. Puis aussi, j'ai une grille dans ma tête d'analyse avec les années, OK? Hier, j'ai découvert, mais c'était facile, là, Eye of the Tiger a mis des... Ils ont dit, voici qui est le prochain adversaire de Steven Butler. Là, ils ont dit 4 indices. C'était facile. Je me suis levé, je suis parti à la course sur mon laptop parce que la version web de BoxRec a plus d'infos que la version mobile. Puis là, j'ai trouvé l'adversaire avec les consignes. On ramène Steven Butler. J'aurais pu vous dire à l'avance que Steven Butler... Après avoir subi un KO, il allait affronter un boxeur de la division en dessous. J'aurais pu vous dire à l'avance qu'il était probablement mexicain parce que ça coûte moins cher. C'est de même, là. Puis j'aurais pu vous dire à l'avance que c'était un gars qui avait subi souvent la défaite. Okay? C'est des affaires qui se savent, ça. Puis j'aurais pu vous dire à l'avance qu'en début de carrière, il était 4 catégories en dessous de celle qui va boxer. Okay? 140. 147, 154, 160, 4 catégories. Okay? J'aurais tout pu vous dire ça. Okay? Rien de compliqué là, pour moi. J'aurais pu vous le dire. Il va affronter Ivan Alvarez. Okay? Si on y va dans ce que je connais, là,
Ivan Alvarez, il va perdre au deuxième contre Uriel Pérez. C'est le gars qui a knocké notre ami Mathieu Germain à une autre époque. Il a perdu, il n'a pas gagné un round contre Pedro Campa à 140. Il va faire un match nul ici au Canada contre Kane Herron, un 147. Vous voyez, c'est des gars qui sont petits comparés à Steven Butler. Il va revenir au Canada, si ma mémoire est bonne, jamais. Oui, il va revenir contre Jesse Wilcox en novembre 2022. Il fait un combat nul. Wilcox est un bon boxeur à 154, mais c'est pas Steven Butler. Là. Soyons honnêtes. Steven Butler, là, c'est un surdoué qui n'est pas capable de craquer le top 5 là, ou le top 15. C'est un surdoué. J'ai pas le droit de dire ça, ça va faire fâcher tout le monde, mais c'est Charles Hudon, Steven Butler. C'est le meilleur marqueur de la Ligue américaine, mais ça marche pas dans la Ligue nationale. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je... S'il affronte quelqu'un qui est sorti du top 15, tu te dis « wow », mais après ça, ça marche pas contre le top 15. Puis c'est pas... Les gens vont dire « t'aimes pas Steven », Steven va dire « je l'aime pas ». C'est pas ça, mais c'est une analyse. C'est ce qu'on voit, puis c'est on analyse à partir de ce qu'on a pour travailler. Puis c'est ça que j'ai, t'sais. Il va... Je suis obligé de me défendre. Il va aller en Roumanie contre Flavius Bia à 154. Va bien paraître dans la défaite. Et il va, là, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Pas grand-chose. Combat nul avec Jesse Wilcox. Il va battre Damien Sosa au juge qu'on a vu. On a vu Sosa ici survivre à Artem Oganesyan. Donc, c'est un gars qui a comme plein de comparables, qui est vraiment pas la fin du monde. Là, n'ayons pas peur des mots. Mais Steven, il veut pas, après deux défaites en championnat du monde, il veut continuer. Puis tant mieux, c'est correct. Moi, si j'avais été Eye of the Tiger, j'aurais dit on va nettoyer le local une autre fois. Fais des combats locaux, on va essayer de te repartir doucement. Peut-être que ça va être ça l'idée. Mais là, on décide d'aller avec un Mexicain. Dans l'autre nouvelle, OK, boxe locale, hey, Poulain, là. Et vous me faites rire. Vous pensez que je vois pas tout? Je vois tout, OK? Vanessa Lepage-Joannis est disparue de la carte du 14 novembre prochain. Hey, je vois tout, moi. Selon moi, OK? Il y a une carte le 14 novembre. Elle disparaît, OK? Il y a une carte à Québec le 13 janvier. Les billets se vendent comme des petits ponchos. Ma prédiction... Et là, tenez-vous bien, là, j'ai vu neiger. Là. Ma prédiction. Vanessa, puis j'ai pas de source, j'ai rien. Là. Ma prédiction. Quand Eye of the Tiger Management va revenir de là-bas, là, où ils sont en voyage, on va apprendre. Il va y avoir une conférence de presse. La conférence de presse va avoir lieu à Saint-André-Avelin, dans un restaurant local, OK? Peut-être dans un... je sais pas, d'un Harvey's. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-André-Avelin? Un camping? Ils vont trouver un restaurant là-bas, OK? Je vais essayer de vous en nommer un, parce que faut bien que je fasse mon métier comme il faut. Ils vont aller au Café du Bistrot, à Saint-André-Avelin. Ils vont faire une conférence de presse ou bien au Vieux Chaudron. Puis ils vont nous apprendre que Vanessa Lepage-Joannis, on lui a trouvé un combat de championnat du monde. Et qu'elle va affronter. Et là, si j'avais un nom comme ça à lancer dans les airs, pourquoi pas Raquel Meller avec la WBC? Meller était supposé venir affronter. On l'avait vu, là, elle était comme devenue aspirante au titre de Marie-Ève Dicker à Montréal. D'un combat légèrement endormant. Là, c'était à Québec contre Alma Ibarra. Puis elle était à 150 livres à l'époque. Aujourd'hui, elle est rendue à 185 à son dernier combat au Mexique. Où elle est devenue, je pense qu'elle est championne du monde WBC intérim ou quelque chose. Là, faudrait que Marie-Ève Albert m'aide avec ça, mais elle n'est pas là présentement. Donc, ma théorie, c'est que Vanessa Lepage-Joannis va se battre en championnat du monde à quelques jours de Noël à Gatineau avec
tous les autres, là, Gaumont. Tu sais, Gaumont aussi, là, il pue sa carte du 14. C'est ma mémoire. C'est, si vous faites vos calculs, là, c'est de même. Les génies, là, c'est de même qu'on fait du journaliste sportif, OK? Si tu analyses ton box-rec là, du 14 novembre, ils ont sorti Gaumont. Ils ont sorti Vanessa Lepage-Joannis. Ils ont pas mis le 13 janvier. C'est pas vrai qu'ils se battront pas pendant 6 mois, OK? Donc, juste en calculant ça, là, par ma grande intelligence, je peux vous dire, d'or et déjà, qu'il y a une carte en décembre avec un championnat du monde ou un aspirant. Mais moi, je pense que c'est un championnat du monde pour Vanessa. C'est réglé. Avec Harley, David, O'Reilly, avec le retour de Pascal Villeneuve, avec Gaumont, avec Croteau. Swing un Bazignan dans l'affaire. T'as une grosse carte. C'est réglé. Il va avoir une conférence de presse début novembre. Il va à la vente de billets, tout. Je suis certain de ça. Personne ne me convaincra jamais du contraire. C'était... groupe Yvon Michel. Bon, là, je veux pas... parler pas fort, pas me faire poursuivre. Selon une source généralement bien renseignée, on aurait des nouvelles cette semaine à savoir si la Régie des alcools, courses et jeux du Québec décide de convoquer Alexandre Croft et Yvon Michel suite aux incidents qui se seraient passés après le 7 octobre prochain. Donc, s'il y aurait des dénouements cette semaine, j'en sais pas plus et la seule rumeur qui court, c'est qu'il n'y aurait pas de gala avant le mois de février pour le groupe Yvon Michel. On serait sur pause et on repartirait une saison casino, possiblement avec Marie-Pierre Roule en finale. Est-ce que ce sera... Marie-Pierre, je t'aime. Est-ce que ce sera... Parce que des fois, j'ai peur que tu l'oublies quand je suis trop critique, mais... J'ai une ligne entre la boxeuse et l'ami. Est-ce que ce sera aussi Thierry Osias, à qui on commence à en devoir beaucoup? Il y a Caroline Vert. Et ce que j'entends dans la rue présentement, c'est qu'on serait à réfléchir pour organiser un Maslow McDonough contre Mathieu Germain pour relancer la prochaine saison de boxe. On rappelle que ce podcast en prolongation, le plus long podcast de l'histoire de la boxe du Québec, est rendu possible grâce à la participation finale, quasiment pas dans ces mots-là, là, la participation, mais c'est à cause que j'ai une patate dans la bouche ce matin pour faire le podcast. C'est un défi en ce qu'on s'est donné à une petite gang de podcasteurs de faire un podcast avec une patate dans la bouche puis voir comment ça allait se terminer. Et là, vous voyez, je me sens fargé dans mes mots, mais le podcast est rendu possible grâce à la participation financière de FightNight.co. FightNight.co, croyez-moi, OK, Benjamin et Sébastien qui sont, dans ma tête, la même personne. Pourquoi? Ils sont pareils. Ces deux entrepreneurs. Eux autres, là, tu leur donnes 8 cure-dents, OK? Tu reviens une demi-heure après, ils ont fait un lingot d'or avec. Eux autres, ils ont tout ce qui touche se tourne en or. Ce sont deux génies. Benjamin et Sébastien. Moi, tu me donnes l'argent, là, je te traite de génie en ondes. C'est de même, ça marche. Donc, c'est mes seuls et uniques commanditaires, FightNight.co. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ces deux jeunes hommes qui ont des gros projets pour 2023. Ils vont envahir le Québec. Ça va brasser. FightNight.co, vous pouvez vous abonner pour m'écouter animer des combats. Vous pouvez aussi vous inscrire si vous voulez vous battre. Comme moi, je vais m'inscrire pour sacrer une volée à Siamak Ramati parce que je ne suis plus capable de l'endurer. Il m'achale en message texte. Il veut tout le temps passer du temps avec moi. Il me poursuit au travail. Ils ont donné un bogey. Là. Lui, au travail, c'est comme il est bien important dans la direction. Ils ont donné un bogey avec des roues. Il court après moi, mais moi, je marche. Mais lui, il a son bogey. Genre. Fait qu'il est plus rapide que moi. Fait qu'il me rejoint tout le temps. Puis là, il m'achale toute la journée. L'autre fois, il a failli me passer un KO au foie pendant que je travaillais. Imaginez, le travail pour vous autres, c'est un havre de paix. Moi, c'est un lieu où je me fais attaquer par un boxeur iranien de 40 ans
qui frappe comme une mule. Je ne sais pas, c'est assez reposant aller travailler puis se manger des coups au foie. Puis là, je me sentais comme quand Gatti quand Gatti avait frappé Dorin. Là, je me sentais comme Dorin. Tu sais, je suis plus capable de respirer, je suis au travail. Fait que Sia, fais attention à toi, les normes du travail s'en viennent. Sia qui est invaincu avec fightnight.co aussi. Donc, allez voir ça. Surveillez 2023. Les nouvelles de la semaine. Bon, là, j'ai parlé en long en large de Simon Kane puis de Makhmoudov. Sur la même carte, il y a Fury contre Ngannou. Ben, moi, je pense que Fury va dominer Ngannou. Là. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais l'écouter. Mais pourquoi je vais l'écouter? C'est que si tu me niaises avec Fury et Ngannou, puis ça ne m'intéresse pas, mais que ça permet à Simon Kane et Makhmoudov de débloquer leur carrière, qu'en plus, tu me donnes Fabien Wardley contre David Adelaï chez les poids lourds, que tu me donnes Martin Bacol contre Carlos Takam, ben là, moi, je veux dire, que tu me donnes en plus Mose Itoma, qui continue sa carrière, je pense, il y a 18 ans, ben là, hey, tu peux passer toute ta vie à me niaiser là, avec une sous-carte de même. Niaise-moi, vas-y, niaise-moi. Tu me donnes mes combats en sous-carte. Moi, je suis bien heureux. Hein. Mets-moi une sous-carte de boîte avec 4 combats que je veux voir en dessous. Il n'y a pas de problème. Là. Hey, Jake Paul, tu veux-tu te battre pour niaiser? Pas de problème. Si tu me donneras... Donne-moi 4 combats que je veux voir en dessous. Là. Je n'ai pas d'exemple précis. Mettons, donne-moi Lara contre Garcia. Donne-moi Andy Ruiz contre Parker 2. Okay? Donne-moi, mettons, plein de bons combats. Donne-moi Tim Zou contre Charlo. Okay? Puis en finale, il faut que je me tape Jake Paul contre Guillaume Lemaitre-Vierge. Ça passe. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était ta chronique internationale. Jorge Linares, un des plus beaux boxeurs techniques qu'on a vu, mais un des pires mentons de l'histoire, a perdu contre Jake Catterall, a annoncé sa retraite. Il était à peu près temps, Jorge. Là, je vais recevoir un appel de Jonathan Giria. C'est pas Jorge, c'est Jorge. Je sais pas comment prononcer. J'ai de la misère avec les mots en français. Non, mais c'est quand le podcast, il est long, hein? Tu finis par t'enrager vers la fin. Giovanni Santillan a débattu Alexis Rocha dans une surprise pour gagner le NABO des 147. Devrait avoir sa chance en championnat du monde avec ce genre de performance. Sinon, c'est certain, là, Fury contre Usyk, c'est réglé pour le 23 décembre. J'ai même un scoop que Makhmoudov, c'est réglé, s'il ne se blesse pas ou qu'il ne perd pas, il fait partie de la carte du 23 décembre. Il ne faut juste pas que Ngannou blesse Fury. Okay? Si Fury sort de là indemne, c'est réglé 23 décembre prochain. Pour Régis Progrès, puis Gervonta Davis s'obstine à savoir s'ils vont s'affronter qu'un catchweight ou s'ils vont juste jamais s'affronter. Bien intéressant. On en jasera quand ce sera signé. Tyson Fury dit que le monde chiale tout le temps, mais qu'il veut faire 10 autres combats parce que la lutte, c'est violent, puis la boxe, c'est facile pour lui. Personne ne me touche, je me promène d'un câble. Keith Thurman va affronter Emantas Tanionis le 9 décembre prochain sur Showtime Pay-Per-View. Ça fait tellement longtemps que Keith Thurman n'a pas boxé, il cale. À son dernier combat, il avait des cheveux dans le front. Là, il est rendu à mi-tête. Okay? Faut-tu que ça fasse longtemps que tu n'as pas boxé? Teofimo Lopez dit qu'il ne veut rien savoir de Gervonta Davis. Canelo dit qu'il s'entraîne pour son prochain combat. Les gens espèrent que ce sera le gagnant entre Benavidez et Dimitrius Boubou Andrade. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans mes petites nouvelles de la semaine? Ah oui, ça c'est drôle. Hein? Anthony Joshua est allé s'enfermer 4 jours dans une salle comme grande comme ma cuisine, mettons. Dans le noir le plus complet. Puis là, Eddie Hearn est comme tout content. T'sais, il s'est enfermé d'une salle. Bravo. Moi aussi, je suis capable de m'enfermer chez nous pendant 4 jours. C'est à peu près aussi grand que la salle de Joshua. Puis là, il dit vous voyez comment les grands sont faits, comment les grands sont conçus. Il n'a pas eu peur de s'enfermer pendant 4 jours. Voyons. Ressaisis-toi. Eddie Hearn, genre, il s'est enfermé pendant 4 jours. Il y a du monde qui font ça tout le temps, là. Mettons, tu sais, dans des guérites pour travailler, je sais pas. Moi-même, là, mettons, il fait moins 12, là. Je suis en vacances, il fait moins 36. Je sors pas de chez nous. Puis j'écoute la TV en bobette. Je dis, faut-tu qu'on me canonise à la télévision? Je suis tanné, je suis... Apprendons à boxer. Mais non, mais il a gagné les Olympiques quand même. Mais apprendons à faire face à l'élite au lieu de t'enfermer chez vous. Les combats de la semaine prochaine. Ben là, il y a Amanda Serrano vendredi prochain sur DAZN qui va se battre contre Danila Ramos dans un combat de 12 rondes de 3 minutes. Orlando a accepté, donc on va pouvoir avoir vraiment... On va voir c'est quoi de la boxe féminine de 12 rondes de 3 minutes. On va voir est-ce que ça va casser ou quelque chose. Si Serrano, là, tenez-vous bien, là, je vous fais une prédiction. Le podcast 120 secondes avec Marie-Ève Albert existe. Si Serrano boxe comme elle fait d'habitude, mais qu'elle réussit à le faire pendant 36 minutes, elle va éclater tous les records de punch stat des hommes. Elle va atteindre 2000 coups de poing lancés en 12 rondes. C'est ma prédiction. Amanda Serrano va lancer 2000 coups de poing en 12 rondes pour éclater tous les records de Kasim de Dream Uma. C'est ma prédiction. En sous-carte, on a Antonio Vargas contre Hernan Tyson Marquez et pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Ailleurs dans le monde, on a Yuri Kalenga. Tu sais, Yuri Kalenga, ça, c'est drôle, genre, c'était comme une superstar en France, puis tout, là, pour mes amis français. Puis là, finalement, il va affronter un gars qui passe pro sur un combat de 10 rondes à Kinshasa. Je comprends rien, mais je vais aller me renseigner. Peut-être que son adversaire, c'est un grand boxeur amateur. Je comprends pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé hier? Ah oui, Firat Arslan est devenu champion WBA Gold hier à 53 ans. Arslan, je l'avais suivi comme toute ma vie. Hein, puis là, il est revenu à 53, puis je l'ai comme boudé. Mais c'est un gars que j'avais beaucoup suivi au début des années 2000, qui est comme un physique incroyable pour 53 ans. Genre, il fait penser qu'on peut vieillir en santé. Il va avoir Ushaki Foster, qui est un ancien gros prospect sur DAZN samedi prochain, contre Eduardo Hernandez, qui est 34-1. Pour ceux qui sont encore abonnés à DAZN, malgré qu'ils n'arrêtent pas de changer la grille de prix. Hein, puis moi, j'avoue, là, je me suis déconnecté à DAZN parce que j'en avais ma claque, comme on dit. Ah ouais, et aussi, allez sur Boxing Town de Québec, là, parce que là, le podcast commence à être long, mais je mets beaucoup de prospects pour les Jeux olympiques. Là. J'essaie de parler des jeunes qui brilleront dans la boxe de demain chez les pros, mais qui brillent présentement en boxe olympique, qu'on devrait avoir certains, même quelques représentants aux Jeux olympiques, peut-être. Alors, la semaine prochaine, il n'y en a pas de boxe à surveiller. Donc, amusez-vous. Passez une belle semaine. Faites attention à l'alcool. Ça rend fou entre les oreilles. Je vous aime tous. Manquez pas l'avant-match avec Régent Tremblay et Vincent Tremblay, le père et le fils, ainsi que moi. Donc, bonne semaine. Je vous aime.